sezio in una perda spacciau te traballai antioga coen di certa accanta su goupai con su cigarro un buca parciu manco deu spinu non minciuca serriu cocomeu suletu non mi bragi no dromu casi mai non cico mai sabagi ma betu te gerrai spacco tutto canto sei forte che non fai ti pigarà su spanto i beni te cantai
bella calla setta quando è notte il sole che ti illumina salutiamo tra la folla e a te ti manca sempre la parola.
Enquête de cinéma sur Radio Galère 88.4.
Fini casse, non di poco, non sei un fisci all'ua. Se vigili che fuzza che non sesti stura.
Lundi 4 avril, enquête de cinéma, on reçoit ce soir Maria Anata, cinéaste. J'ai mal prononcé ton nom, excuse-moi.
Oh my god.
Oh my god. En présence de d'Argeline et de Wahib pour une enquête de cinéma, lundi 4 avril.
Ci salutiamo tra la folla, e a te ti manca sempre la parola. Zizi, down down baby, New Orleans.
Alors voilà, on va être avec Marta Anatra. Voilà, pour une enquête de cinéma jusqu'à 23h sur les ondes de Radio Galère 88.4 pour se promener dans le cinéma de Marta. Et pour commencer, ben on va lancer une petite présentation que Wahib nous a préparée. Es-tu prêt, Wahib? Ouais. Allez, on y va.
36. On était... en 1936.
Voilà, c'est parti. Vas-y.
Vas-y, oui.
It was or...
C'était.
J'ai vécu.
non, je ne suis pas trop vieille, je suis pas née en 36.
Merci Martha de, d'être avec nous, d'avoir accepté cette, cette chat-chat radiophonique. C'est vrai que si on trouve ce petit passage qui raconte un peu ta vie et ce que tu cherches à travers le cinéma, il y a 2 minutes 30, 2 fois 2 minutes 30, qui résume un petit peu cette question. Si jamais Lolo il arrive à mettre une
Mais je pense qu'il va falloir. En plus, ils sont en italien. Donc je pense que ça va être bien que tu lises le texte.
Ce serait bien d'avoir
Oui, mais...
je peux les lire si tu veux.
Tu veux le lire?
Ah bah ouais.
Ouais, c'est mieux.
Allez.
C'était la 1936, quand Mussolini décidait finalement que l'Italie devait investir dans l'aéronautique. Parce que la victoire vient de l'air. Le stable Meloni, s'appelait comme ça, il y avait 4 arbres de banjan.
Bayan,
des arbres indiens, qui a décoré l'entrée d'un grand courte. Il venait d'être réquisitionné par le ministre de la Défense pour construire une caserne qui va aller s'appeler la Trieste, donc un nom du nord d'Italie. Cette caserne devenait tout de suite le premier endroit où fondait la mythique aviation légionnaire, c'est-à-dire l'équivalent des chemises noires de l'air. Du coup, ces mêmes arbres, une fois que Cagliari a été bombardé, vu que l'Italie a perdu la guerre, ont commencé à pousser dans cette caserne abandonnée. Et on sait comment on pousse un arbre tropical. Du coup, ils ont poussé comme dans une jungle. Ils ont commencé à reconstruire les casernes avec leurs racines aériennes. Et là, ça continue. Et moi, j'ai dit, en abandonnant ce jardin, j'ai regardé encore ces arbres. Et tout ce qu'ils avaient vu et de quels ils étaient témoins à travers les années. Des racines aériennes qui poussaient du haut vers le bas. Mais je me demandais si moi aussi, je pouvais m'enraciner du haut et arriver à regarder mon passé de là, pour ne plus sentir le poids de mon histoire. Voilà, du coup, une histoire lourde, italienne.
Après, mais non, pas seulement. Et le bagnant, en fait, il a ses racines aériennes, mais qui plongent dans le sol et qui viennent s'étendre sous terre. Et on voit pas, et ça crée à nouveau une verticalité. Et du coup, toi, t'as ramifié comme ça ailleurs. T'es parti ramifier ailleurs.
Ouais, oui, c'est ça.
Sans tout à fait t'enraciner, je sais pas.
Ouais, je suis très enracinée à Marseille parce que mes racines italiennes étaient un peu pourries et j'avais besoin de lancer des racines aériennes ailleurs. Et à Marseille, y a plein de poubelles, plein d'humus, ça pousse bien.
Ouais, c'est très organique.
Encore une fois, merci Martha de te lancer avec nous. Sur ces terrains on friche et on défriche. Tu nous disais que dans le premier message qu'on s'est transmis, qu'il n'y avait pas grand chose, que tu n'avais pas grand chose à nous montrer. C'est vrai qu'on ne peut pas montrer grand chose à travers les ondes du radio, mais on peut au moins en faire partager quelques. Quelques respirations, quelques souffles, quelques mots. Tu nous as envoyé une photo qui montrait une cigale ou une coque de cigale. Mmh. Et tu nous avais dit, au début j'étais peintre. Puis j'ai rencontré cet arbre. Un arbre, c'est l'arbre. Je me suis fait mon école de cinéma pour apprendre à le filmer. Mmh. La peinture me saoulait. Mon école de cinéma a été un film sur l'argent et l'art.
Il y a tout là.
Oui. Je l'ai fait avec une bourse et je suis allé filmer l'arbre. Je suis allé voir des anthropologues naturels pour apprendre comment parler du paysage. Ouais. Je ne l'ai pas appris, mais j'ai découvert l'anthropologie visuelle. Ça m'a plu.
Il y a plein de choses là, dans cette petite phrase.
Moi, ce que j'ai vu... Oui, Lolo.
Non, je voulais, par rapport à la première phrase, pourquoi la peinture te saoulait?
Ah oui. Mais il y a plein de choses dans ce... D'abord, je suis encore paysagiste, du coup, je pense que ce qui me saoulait de la peinture, c'était plutôt la pratique, pas tellement la peinture en soi.
Le geste, tu veux dire le...
Non, la pratique solitaire.
D'accord, le côté solitaire.
Ouais. Ouais, je trouvais que c'était plus le bon endroit où être enfermé dans un cellier. Travailler cet aspect conflictuel de la création toute seule entre moi-même, ressortir quelqu'un, l'œuvre est finie. C'était plus pour moi, c'était trop douloureux et je ne savais pas encore que travailler avec les autres c'était tant beau et réjouissant. Et j'adore ça du cinéma, c'est trop beau. On fait les choses avec les autres.
On le voit dans tes films.
Et en plus, tu le fais avec les autres, mais tu continues à travailler toi tes trucs, en fait. Tu négocies pas ça. Et en même temps, il y a beaucoup de transmissions, beaucoup de... comme des transmissions électriques. Ça passe plein de choses. Ça enrichit énormément, beaucoup plus qu'un pinceau et un pot de couleurs. Ouais. Voilà, ça c'est une chose très importante. C'est parti par l'arbre, parce que l'arbre c'est un élément hyper compliqué à filmer, c'est pas une personne. Tu peux pas lui tourner autour, le voir faire des choses, en fait, un temps vital tellement lent, tellement long, que c'est difficile. Les peindre c'est encore plus difficile, parce qu'un arbre, peint, c'est... un arbre. Je sais pas, c'est très décoratif. Et quand j'ai découvert ce lieu, en fait, je voulais raconter aussi l'histoire. Je voulais essayer de voir tout ce que j'ai ressenti dans ce lieu. Du coup, l'espace et le temps, c'était différent que l'instantané qui donne la peinture. C'est pour ça que le cinéma, c'était un moyen de... Je pense que c'était ça qui m'a amené au cinéma, c'est la temporalité et la narration. Et le pouvoir traverser quelque chose. La ligne que tu... La ligne, la courbe, je sais pas.
Mais justement, ce Bagnant, on a pu... Je pense, nous, on a pu voir, alors pas les auditeurs, mais une esquisse de... T'essayes de le filmer. Et il y a quelque chose qui respire, en fait, c'est cette puissance-là à laquelle tu essaies de te coller, comme les êtres que tu vas filmer plus tard, en fait. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu filmes du vivant qui t'échappe aussi, qui vient répondre, qui... voilà. Donc, en fait, la puissance de cet arbre auquel tu retournes régulièrement, comment ça se fait que tu sois passé de cet arbre à autre chose par la suite ? C'est-à-dire que c'est une frustration, c'est une contrariété. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui s'est passé avec ce...
Oui, non, c'était pas trop une contrariété. Bah, déjà, tu découvres l'autre de façon différente quand tu fais du cinéma. Et, oui, moi, ça m'intéresse le vivant, pas seulement l'humain. C'est vrai. Mais du coup, ça reste toujours ce lien avec le végétal. Mais je ne vois pas les végétales comme quelque chose de... Voilà, du coup, je répète, décoratif ou joli à filmer. Je vois vraiment comme quelque chose qui est bien connecté à l'endroit où il habite, qui est bien lié, qui est bien hyper attentif à tout ce qui se passe autour.
Souverain.
C'est pas un monade comme les êtres humains, des fois. On a tendance à se sentir complet, tout seul, ou dans leur communauté. Alors que les végétales, il est obligé de rendre compte... donner compte à tout ce que l'entoure.
Oui, d'interagir en fait, quoi.
C'est de la communication. Hein. Bon, oui, du coup, oui, tout est lié en fait, le cinéma qui s'est fait avec les autres, qui du coup qui impose une communication, le fait de rencontrer les autres. Mais je parle du cinéma, mais je dis, moi je fais du documentaire en fait.
Oui, enfin, t'as une caméra.
Oui, mais c'est parce que la fascination vers la... Je ne sais pas si on peut dire le réel, mais c'est ce que je vois. parce que je pas ce que dans ma tête toute seule, c'est ce que je vois en dehors de moi qui me travaille dedans.
Ouais. Et par exemple, si dans ce que tu dis là, j'ai envie de faire un lien avec le tout à l'heure tu nous as montré une photo de tu disais ma peinture préférée. Et c'était drôle, c'était touchant aussi. Et c'est un paysage. En fait, c'est complètement dilué. C'est la disparition de quelque chose. Et en fait, par exemple, quand je mets en relation et cette peinture et ce bagnant que tu commences à filmer très tôt, qui lui est extrêmement incarné, mais en même temps c'est hyper dense. Enfin, c'est tout le contraire de cette peinture qui est hyper diluée. Et qu'en fait, j'ai l'impression que dans ce que tu as filmé par la suite et plus récemment, c'est le paysage comme un paysage qui se, et non pas du tout décoratif, mais qui à la fois disparaît, c'est la menace, ce qui menace le paysage, sa disparition, sa dissolution et sa résistance. Et voilà. Et comme les êtres que tu filmes, en fait, aussi, qui sont dans ce, dans cette lutte, peut-être, je sais pas comment tu vois les choses.
Mais les paysages, c'est... Mais les paysages, c'est une stratification des choses. Les paysages ne disparaissent pas, dans tout cas. Comme même temps, ne va pas disparaître le monde, n'importe que ce qui se passe. C'est juste cette stratification qui m'intéresse. Bon, du coup, c'est pas... La peinture de qu'on parle, c'est une peinture blanche où il n'y a presque rien. Et ça, c'est ce qu'il y a dans ma tête, en fait. Il n'y a rien dans ma tête. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui se passe dehors. Mais oui, je ne sais pas s'il y a un lien entre ce tableau et mes films, en fait. Je ne suis pas sûre.
Non, mais oui. C'est juste un... En fait, nous, en tout cas, moi, j'étais tentée de dessiner une trajectoire, mais faite d'aller-retour, enfin, tu vois, c'est pas chronologique. Mais c'est juste que je me dis qu'entre la densité résistante de ce bagnant qui t'échappe et qui est hyper dur à capter, captiver, capturer avec la caméra, de faire corps avec ce truc énorme qui te dépasse et qui est d'une puissance incroyable, et justement, la projection, donc ton imaginaire avec la peinture, tu fais un peu ce que tu veux, en fait. Et que du coup, tu te mets à filmer aussi des paysages qui, oui, certes, disparaissent pas, mais sont menacés.
Ils sont plutôt en arrière-plan. C'est l'arrière-plan, le paysagiste, en fait, qui tient l'arbre. Il le tient. Après le paysage, n'importe où, l'arbre, il pousse n'importe où. Pourvu qu'on ne le déplace pas, pourvu qu'on ne l'arrache pas de son enracinement. C'est, revenons aux racines un petit peu, s'il vous plaît. Martha, je te cite dans ton film, le premier où tu franchis à travers ces gris, à travers cette faune, cette broussaille, pour aller vers cet arbre, l'arbre où il y a, où se trouve la famille ancestrale de ton grand-père. J'ai vécu la plus grande, tu dis, je te cite Martha, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie à Calgary, la ville où mon père a choisi de travailler et de passer sa vie.
On vous entend.
Il a choisi cette ville qui n'est ni l'Europe ni l'Afrique. Donc on revient à Calgary, le point de départ.
Parce que mon père, il est né en Afrique. Oui. En fait, ce lieu, c'est pas l'endroit de ma famille. Oui. Moi, je le considère comme ma racine parce que il y a l'histoire de l'Italie, l'histoire à laquelle j'appartiens. Mais pas ce lieu, spécialement, c'est pas le jardin de ma famille, c'est pas l'endroit de mon grand-père non plus. C'est un endroit que j'ai découvert en marchant dans la ville, en explorant la ville. Mais c'est pas un lieu de famille personnelle. Mon père, il est né en Afrique, il est venu habiter à Cagliari, c'est ça que je raconte. Et c'est toute une histoire qui est liée au fascisme, c'est sûr.
Oui. Ouais. Mais en tout cas, il a séjourné à cet endroit quelque temps, quelque part. Qu'est-ce qui fait lieu où cet arbre, ou cette rencontre avec cet arbre, est-ce qu'elle est fictionnelle ou est-ce qu'elle est réelle?
Non, en fait, le lieu se dénomme la caserne de l'aviation légionnaire. Et l'aviation légionnaire, c'est la première flottille volante qui a exterminé de la population civile dans l'histoire de l'humanité. Moi, je sens ça comme une responsabilité, si tu veux, culturelle. Et je sens l'Europe comme un endroit assez dégradé à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, je ne savais pas avant de découvrir l'arbre que l'Italie avait fait ça avant les Allemands en Espagne. Pendant la guerre d'Espagne, les Italiens sont les premiers qui ont exterminé un entier village. C'était une nouvelle façon de faire la guerre. Et quand j'ai fait ça, il y avait la guerre en Irak qui venait de finir. Il y avait eu beaucoup de bombardements. Il y avait plein de merde ensemble, de partout dans le Moyen-Orient. Et en fait, de découvrir que c'est les Italiens qui ont lancé cette mode, je pensais que c'était important de les raconter.
Tu parles de ce lâchage de bombes,
c'était un village qui s'appelait. Alors, c'était un village d'Espagne, c'était la guerre d'Espagne, et en fait, l'aviation légionnaire était créée pour soutenir Franco. Et du coup, ils sont partis de Cagliari, ils sont allés en Afrique, et puis ils sont partis en Espagne, et ils ont bombardé un village le dimanche pendant la messe. Il y avait le marché, plein de gens morts.
Et c'est là où tu utilises des images d'archives dans ce,
ouais, c'est ça.
Dans ce travail.
Ouais, c'est ça.
C'est la première fois que tu utilises des images d'archives à ce moment-là.
Oui, c'est mon premier film, du coup, oui.
C'est avant.
L'Uomo d'Argento, oui, non.
Non.
C'est en même temps.
D'accord, ok, ouais. Oui, parce que ce principe de, en tout cas, ce choix par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de la question en parlant de l'arbre. Et aussi de la stratification, je sais pas comment on dit, ça a tout son poids avec le parti pris des archives, quoi. Que rapidement tu, c'est quelque chose. J'ai l'impression que c'est tout de suite dès le début dans ton cinéma, et c'est quelque chose qui te suit jusque à ce dernier film que tu viens de terminer, quoi. Qui est comme une, je sais pas, c'est quelque chose que tu vas continuer, mais en tout cas, on sent qu'il y a un long chemin, comme un aboutissement aussi dans le dernier film, quoi. Et ça t'est. C'est par la notion de stratification que ça t'est venu, cette nécessité.
Tout à fait.
Ouais, c'est comme ça qu'elle s'est.
Si. Tout à fait. Ben, je répète, je suis pas. Je fais pas de la fiction, je fais du documentaire. Et je trouve en soi que le monde est déjà plein d'images. Du coup, j'aime bien le fait de réutiliser des images et les remettre en discussion. C'est pas, moi, je considère ce film pas trop réussi, mais les intentions, c'était ça. C'était de les faire habiter dans un endroit spécifique, ces images-là. Ce sont des images de propagande, à certaines, et d'autres sont... Un autre, c'est un documentaire que j'avais demandé... de pouvoir utiliser un monsieur qui avait fait un documentaire justement sur cet épisode de l'histoire qui n'est pas trop connu. J'aime bien l'idée de pouvoir réutiliser des images dans d'autres contextes.
Ah, t'as bien raison. T'as bien raison parce que moi, vraiment, ce que j'ai ressenti comme essai assez fort et qu'une tentative acharnée depuis le début de toutes ces années où tu le fabriques capsule après film après film, Orokos, il prend corps enfin. Mais bien sûr que ce premier document d'archives qui nous relie toujours à c'était en 1936, Mussolini qui rêve d'une Italie fulgurante et foudroyante et et victorieuse, et qui dit, et je trouve franchement ça, c'est un acte, une revendication assez forte, c'est de contrecarrer les paraboles, les anciennes paraboles politiques ou autres, quand il dit, Mussolini, la victoire nous viendra des airs, et qu'il envoie toutes ses forces, toutes ses dernières forces par les airs pour participer à, en fait, l'anéantissement, quoi. Les écuries de Meloni, où quatre ficus ombrageaient tranquillement la porte, ont été réquisitionnées par le ministère de la Défense pour faire place à la caserne à Trieste. N'est-ce pas ? C'est là où tu filmes. C'est là où tu commences ton acte. Tu filmes et il y a une intention qui est peut-être intrusive comme ça. Tu rentres par, à travers ce grillage, ces barbelés, et tu rentres dans Trieste carrément. On ne sait pas si on est dans la maison paternelle. Où on est à Trieste, la vraie. Après,
oui.
Donc tu nous décris.
Tu m'as fait penser que il y a un autre film où j'ai mis je ne sais pas si j'ai réussi. Dans le dernier court métrage que j'ai fait la même chose. J'ai essayé de mettre un abîme en discussion, un contexte différent. Des archives qui sont de propagande.
Donc, Progresso.
Non, ouais, c'est ça. Du coup, il y a un truc que peut-être c'est intéressant à dire. En Sardaigne, on a beaucoup de gens à être intéressés aux lieux abandonnés. Il y a même vraiment un collectif qui s'occupe de filmer les lieux abandonnés parce que c'est une région abandonnée où beaucoup de pouvoir est tombé de haut et beaucoup de friches ont été frichées. Il y a beaucoup de défrichage à faire. Et les discours de la propagande mis en contexte avec ce vide, je pense que ça peut manifester bien toute la violence qu'il y a dedans. Dans Progresso, il y a des archives des années 60 où une grosse usine vient d'être construite, un énorme complexe industriel vient d'être construit dans un tout petit village, que c'est aussi le village où j'ai filmé mon dernier film. Et bon, j'ai essayé de la mettre en relation avec quelque chose de beaucoup plus doux que c'est un été d'enfance, des aventures. Ce sont des aventures d'enfants sardes qui se baladent dans des lieux abandonnés, en fait. On fait plutôt ça. Quand on est petit en Sardaigne, on va défricher.
Déjà, ouais.
La ville a été déserte, bombardée, évacuée, les arbres tropicaux poussés comme dans une jungle. Enfin. Et quand les gens rentraient enfin chez eux, cette ville jaune, sèche, s'est échangée en une immense étendue de verdure. En quittant ce jardin, j'ai regardé à nouveau ces arbres et j'ai pensé à tout ce dont il avait été témoin au fil de tous ces ans, les racines aériennes. Pousser du haut et se déplacer vers le bas, j'aurais pu être comme ces racines. Et observer le passé d'en haut pour ne plus sentir le poids de l'histoire. Ça, c'est tes mots, Martha. C'est trop puissant, c'est trop fort. Donc, ça n'est pas un acte complètement.
Mais ça, c'est pas.
Oui.
Oui, c'était à l'époque. Ça.
Alors revenons à notre tableau, peut-être.
Non, mais peut-être tu peux dire juste que j'étais. Ben, je suis hantée par le fascisme, grave. Non, mais c'est grave, grave. Mais en plus, maintenant que l'Italie retombe dans une époque hyper noire, retombe, je pense qu'elle n'est jamais sortie du fascisme. Mais bon, c'est quelque chose qui m'énerve pas mal, ouais.
Et c'est par et cette utilisation des images d'archives, c'est un peu ce qui te permet de faire catharsis avec le cinéma, quoi. De créer en tout cas une sorte de. D'exprimer une sorte de colère poétique. Que tu sens, moi je le sens beaucoup dans Progresso. Mm. Tu vois, même si il y a quelque chose qui est plus revanche, je sais pas, on sent ta nécessité de donner quelque chose entre cette innocence de ces enfants et la violence de ces archives et la violence de ces friches. Et tant mieux qu'il y ait des enfants, parce que sinon ça aurait été très très dur comme film. Donc ça permet un peu de créer un peu une désynchro, on va dire, d'émotion. Mais on le sent vachement qu'il y a, ou c'est peut-être la forme courte, quoi, mais que t'es pas dans la même intention que dans le dernier, où il y a plus quelque chose de, je sais pas, c'est une question de distance ou de regard, mais il y a quelque chose qui est très différent. Moi, je me posais la question pour toi, qu'est-ce qui a été différent dans ces deux gestes que tu as fait, quoi?
Non, la vérité, c'est qu'au début, je voulais être un seul film et que j'avais pas l'argent pour faire les langues. Du coup, j'ai commencé par la partie que j'imaginais pouvoir être un peluche. Alors qu'après le film, moi-même l'autre a été un peluche, mais bon. Et du coup, je me suis dit, je commence par ces parties-là. Ces parties-là, c'est quoi? Ces parties-là, c'est des souvenirs, si tu veux, mais c'est surtout le fait qu'en étant grandi dans un endroit comme la Sardaigne, où toutes ces violences coloniales, ça se ressent énormément dans les paysages, pour moi, les gestes des enfants, ça faisait partie de comment tu traverses ça et comment tu les réinterprètes de façon un peu mythologique. La perception de l'enfant a l'énorme capacité, même s'il ne comprend pas tout de façon logique, elle a l'énorme capacité de réélaborer un peu comme une plante toutes ces informations contrastantes et conflictuelles qui l'habitent, et de les remettre en forme de mythologie. Et du coup, moi je voulais un peu mettre en relation ces deux éléments, du coup les archives avec leur absurdité de proclamation de futures radieuses de l'île et ces régions un peu abandonnées, vues par des enfants l'été qui font des choses hyper simples. Mais au début, je pensais que ça pouvait être un film entier, mais les films, voilà, se transforment pour rester la même chose. Les idées des films se transforment dans la pratique, mais après, se transforment pour pouvoir devenir exactement ce que tu voulais faire. Et du coup, quand j'ai fait les courts-métrages, finalement, quand j'ai fait les longues, je veux dire, les courts-métrages, il est resté une œuvre en soi complète. Et j'ai pu vraiment me dédier à la rencontre des personnes. Ça m'a manqué de rencontrer les personnes, les vraies personnes qui habitent ce lieu, celles qui étaient enfants à l'époque. Du coup, les personnes qui ont mon âge, en fait, je filme que des gens qui ont mon âge. Je filme ma génération, la génération qui a vu le rêve industriel disparaître, ou même pas, s'écrouler, mais pas disparaître encore, non. S'écrouler. Et qui ont vu, ils ont respiré la violence, ils ont vu leurs copains tomber malades, quelqu'un mourir de pollution. Ils ont vu la beauté de ces régions et leur la mocheté.
Oui, enfin l'horreur même, parce que là.
Oui, je sais pas. Oui. Oui, oui. Du coup, moi, je travaillais qu'avec des gens de mon âge. Ouais. Et j'ai rencontré des gens qui habitent ce lieu, comment ils l'habitent, qu'est-ce que c'est habiter dans un lieu comme ça. Ça m'intéressait trop. Je pense que ça, c'est vraiment bien ce que j'ai fait.
Mais c'est très bien. Oui, là, on parle d'Orcos, en fait. C'est le dernier film, qui est donc un long métrage que tu viens de réaliser, que tu viens plutôt de terminer, avec le concours d'autres personnes, comme Alix Tulip au montage.
Michael Capron à l'image, Clément Toumit au son.
Et avec toujours la musique, l'accompagnement musical de Bozzi.
Fabrizio Bozzi
fait Fabrizio Bozzi qui fait les textes.
Non,
c'est un autre Fabrizio.
Et Frisane qui fait les textes. Voilà.
Et la musique.
Non, la musique, c'est dans notre Fabrizio.
Il y a deux Fabrizio. Mais simplement, c'est vrai que, en fait, j'insiste un peu là-dessus, mais effectivement, ce qui est devenu un court-métrage, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de cathartique. On sent comme un coup de gueule, quoi. Vraiment quelque chose de très, une violence, quoi, qui est à peine terrée et qu'on peut deviner chez toi. Il y a quelque chose aussi de l'engagement. Enfin, t'es quelqu'un de très, me semble-t-il, en dehors de ce que tu fabriques en termes de cinéma, dans la vie, en fait, c'est, tu croises quelqu'un dans la rue qui est dans une galère pas possible, tout de suite tu es assez altruiste et tout. Je suis pas du tout en train de faire ton éloge, c'est plutôt un rapport au monde, c'est-à-dire qu'en fait des choses qui te révoltent, il faut que t'agisses vite. Et ce qui est assez beau aussi avec ce long métrage, c'est qu'effectivement il y a quelque chose de très mature. C'est un geste qui s'installe et on suit, comme tu dis, il y a une trajectoire, des trajectoires, et en fait c'est les autres qui sont des passeurs. Finalement, quand on voit que dès très tôt, avec l'Uomo d'Argento, où c'est pas du tout les mêmes questions qui sont traitées, mais il est question quand même du capitalisme, enfin voilà, de toutes ces violences faites à notre monde, tu viens te coller à eux. Et effectivement, on imagine, en fait, moi, ce que j'imagine quand je regarde ça, c'est tout ce qui est en hors-champ, tout ce qui vous lie, toutes vos conversations. Et en fait, tu t'effaces devant ces personnes qui deviennent des personnages et tu viens soutenir, comme si eux venaient soutenir aussi ce que toi, tu penses du monde. Voilà. C'était juste... C'est un travail... J'ai trouvé vraiment Corco, c'était l'aboutissement, et ce sera pas le dernier... tira de plus en plus loin, mais loin, pas haut, hein, on s'en fout d'aller haut, mais voilà, tu creuseras davantage et affineras davantage, très certainement, mais c'est, il est d'une grande complexité par rapport à tout ce que j'ai pu voir, moins brutaliste, moins... Et on s'en fout, en fait, moi aussi j'aime beaucoup quand c'est des éclats comme ça, mais voilà, effectivement, il y a... Il y a cette. Il y a une forme de sagesse aussi, je trouve, dans ce film. Comme si tu. Non pas que tu t'apaisais avec ce qui arrive à notre histoire, à l'Afrique, l'Europe, la Méditerranée, l'industrie, etc. Mais. En fait, tu l'intègres, voilà. Je trouvais que ça faisait. Enfin, c'était un film qui faisait preuve de. Et ça, je sais pas comment tu te sens aujourd'hui quand je pense à... Bon, on s'en fout, on peut faire des bonds dans le temps, là. Quand je pense à ce qui te passionne en ce moment, c'est-à-dire la piraterie...
Ouh là là, tu vas vite.
Moi, je vais trop vite. Alors,
bon,
j'arrête.
Moi, je vous propose une petite pause musicale pour après reprendre la discussion autour d'Orcos, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à se dire, si ça vous va. Ouais, ça vous va ?
Oui.
Allez, une petite pause musicale.
Se déchaîne, on n'a rien à perdre. Les bagnoles crament la zone.
retour sur Galère. D'ailleurs, on aime bien ce nom. Galère, Radio Galère 88.4. On est le lundi 3 avril, comme vient de me souligner Cyril. Et on est en quête de cinéma avec Martha, Waïb et Darjeeling. Pour continuer à faire une petite traversée des différentes ramifications qui hantent Martha. Et on en était à Orcos, son dernier film. C'est un long métrage en 16 mm couleur de 1h7, 8, 9, 10 à peu près. Et Darjeeling, tu voulais faire une sorte de aller-retour, de retour-aller à ce sujet-là.
Oui, bon, alors ça me paraît un peu hasardeux là, soudain, mais Martha, tu veux dire, vas-y, je t'en prie. Tu veux dire quelque chose?
Oui, je veux bien parler d'Orcos.
Alors,
parce que ça reconnecte à l'arbre, parce que Orcos, c'est la fausse étymologie des orchidées. Et une orchidée, c'est une plante qui a des racines et qui habite grâce à des champignons, la terre.
Ah, parce que moi, j'ai eu...
Non, t'as pas la voix.
Il me semble que j'ai eu une autre interprétation sur Google. Orcos qui voulait dire le serment, un vœu. Une promesse ou le démon de la malédiction. C'est le démon de la malédiction.
La malédiction de...
du faux serment.
Oui, c'est ça. Et nous, en fait, les films parlent d'un faux serment, que c'est le serment de bien-être industriel. C'est ce que tous nous vivons aujourd'hui. Et l'orchidée, c'est une fleur qui est capable de pousser dans des terrains pollués. Et que, voilà, du coup, c'est devenu mon personnage dans ce film. Et la ligne d'Orcos, c'est ma vision à moi de cette histoire un peu végétale. Mais je suis très contente de ce film parce que j'ai rencontré beaucoup d'humains. Et comme disait Darji tout à l'heure, c'est plus mature parce que je suis arrivée vraiment à donner, à créer un langage multiple, je pense. Je sens que j'ai créé un langage multiple. Allez les voir si vous arrivez.
Ce petit coup de pub là de Martha.
Une hétéroglosse, un langage où, qui est habité par différentes expériences et par différentes langues. Et dans un petit territoire, tout petit, où il existe des façons très diverses d'habiter un lieu comme celui-là.
Oui, parce que pour dire ce film, juste pour que les auditeurs qui sont immenses, aimant nombreux, puissent capter de quoi on parle, c'est quand même un film où tu prends le parti pris de faire le choix de suivre des personnes qui ont une manière très singulière d'habiter ce petit territoire. Est-ce que tu pourrais nous les nommer et nous en dire quelques mots comme...
Je suis très fière d'être une femme qui raconte des hommes, je veux dire ça, parce que ça n'arrive pas souvent. Et ils sont que des hommes. Et le personnage principal, c'est deux personnages principaux, mais le premier, disons, c'est un ouvrier au chômage technique qui, en n'ayant rien à faire, il va chercher des orchidées
sauvages
et rares.
Uniques et rares.
Et uniques,
oui.
qui poussent dans ces terrains défrichés et très pollués. Et qui s'appelle Andrea. Il y a son ami d'enfance qui s'appelle Fabrizio qui a laissé le village au moment où l'usine a commencé à rentrer en crise parce que sa famille elle s'est bien barrée de ce lieu qui menaçait de devenir un endroit assez pauvre qu'il est devenu. Il y a des pêcheurs qui vont à la pêche, à la mer et qui ne parlent pas jamais. Et ils ne parlent pas, je vous jure. Et il y a un personnage un peu pirate avec une queue, une petite queue, et qui raconte des histoires et qui passe la moitié de l'année en culotte de bain, et qui s'appelle Lello. Et il y a les ouvriers de l'usine qui sont encore en lutte pour que l'usine réouvre quand même et redonne dignité à ce territoire. Et qui se battent pour que l'endroit soit pas dépollué.
Même si c'est une lutte symbolique, finalement.
Je ne pense pas qu'ils la vivent comme ça, mais oui. Et il y a Giancarlo, ce pêcheur ex-ouvrier, qui, même avant que l'usine ferme, il s'est barré de l'usine parce qu'il détestait l'ambiance. Il voulait bien être un peu plus pauvre, mais passer ses journées sur son petit bateau à chercher de pêcher quelque chose dans une mer qui n'a pas plus trop de poissons, parce qu'elle est assez polluée. Je pense que j'ai dit...
Non, tu as oublié les chèvres de Tesco.
De Tessa.
Et le chien Tessa.
Ouais. Et puis il y a les fleurs, les chiens, les chèvres et tous ces gens-là qui habitent les lieux. Il y a des oiseaux qu'on ne voit pas, mais qui habitent dans les structures de l'usine, qui ne fonctionnent plus, mais qui n'est pas fermée.
Il y a la maman d'un des personnels.
Il y a Tina, la maman de Fabrizio, qui raconte qu'elle n'a plus mis pied dans le village depuis beaucoup d'années, mais qui raconte le moment où l'usine a fermé. Et qui raconte aussi avec nostalgie l'époque de bien-être qui a été très courte. Ça a duré 10 ans. 10 ans.
Pour des sacrifices immenses, quoi.
Ouais. Et c'est 10 ans, oui. C'est que 10 ans.
10 ans de confort matériel et encore
Et on a un territoire complètement dévasté. Porto Scuso, c'est un village où tous les vieux souffrent des maladies comme l'Alzheimer. Parce que l'aluminium comporte aussi une énorme pollution qui touche le système nerveux. Et moi, je peux vous dire aussi qu'à l'époque, quand l'usine marchait, il y avait énormément de pollution de la maladie de la respiration et de mort, même entre les enfants. Et voilà.
Cette usine, tu parlais d'une forêt. Je me souviens d'une fois où tu parlais d'une... Comment c'est ? Est-ce que tu peux décrire ce trajet que tu as fait avant de filmer ? Cette usine qui était là, obsédante, mais que pour y aller, pour l'atteindre, vous traversiez.
Ouais. Mais ça avait à voir avec les souvenirs d'enfance sur lesquels j'ai fait les premiers films, les courts-métrages. Mais c'est vrai que soit les premiers et les deuxièmes films, du coup, c'est des films de paysages, et c'est des traversements d'un territoire qui, même si est petit, est très complexe, et qui est composé par différents petits éléments. C'est le village qui est vide parce qu'il n'y habite plus grand monde. C'est l'usine qui est encore bruyante et qui on la sent dans les films, on sent sa respiration tout le long du film, n'importe dans quel endroit on est. Il y a la mer qui est habitée par des hommes qui, on dirait des pirates. Et ça aussi, c'est une suggestion enfantine. Parce que le personnage de Fabrizio raconte que quand il était petit, il regardait les pêcheurs, il voyait ça comme un monde ancien, en disparition. Et ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, en fait, ce sont eux qui sont restés. Et l'usine n'est plus là. Et il y a aussi des forêts, des bois. Et un de ces bois, c'est un petit bois qui sépare les villages de l'usine. Et que pour les enfants de l'époque, et pour les enfants de toutes les époques, même les enfants d'aujourd'hui, c'est un bois hanté, habité par des démons, par des monstres. Ça m'intéressait beaucoup. Du coup, j'ai fait une petite scène dans le court-métrage. Je ne sais pas si c'est trop réussi, mais l'idée, c'était de raconter cette peur, cette terreur qui habite les enfants quand traversent les bois pour aller du village à l'usine, parce que les enfants sont fascinés par les usines, quand même. Et ils ne sont pas fascinés par l'idée d'aller bosser là-bas. C'est autre chose qui les fascine. Et bon, du coup, dans ce bois, il y avait un monstre qui bouffait les enfants.
Mais ce monstre, il était lié à l'industrie ou c'était plutôt les bois et l'imaginaire des bois ?
Ben, en fait, c'est un bois assez malade, vous pouvez imaginer. Ce n'est pas un bois en forme. Ça bouffe beaucoup de pollution. Et du coup, c'est vrai que les arbres sont bizarres. Et en plus, dedans, il y a beaucoup d'araignées très grandes. Bon, ça fait peur. Et les bois, bon, c'est sûr que les bois font toujours peur, mais traverser un bois qui est malade, ou en plus, au fur et à mesure que tu t'approches à la fin du bois, il y a ce bruit blanc qui grandit. jusqu'à quand tu es dans ces tunnels d'arbres qui t'amènent hors de la forêt. Oh, ça, c'est assez inquiétant, effectivement.
Mais c'est aussi un parti pris que tu as eu. Parce que dans le deuxième film, la question du bruit et du son et de la musique qui est quelque chose qui est très forte dans les films que tu fais, elle a moins un aspect inquiétant que dans le premier.
Ouais.
De comment je l'ai ressenti, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait une sorte de chanter, que c'était comme si tu avais besoin d'exprimer une colère. Et que dans le deuxième, il y a quelque chose qui est plus.
Ouais. Qui est
plus poétique.
Dans le deuxième film, les monstres, c'est les fleurs.
Mais c'est des beaux monstres alors.
En fait, c'est que. Pour moi, c'est que de quoi nous on doit avoir peur, c'est des choses qui peuvent être aussi beaux. La nature n'est pas forcément notre copine. Et le fait que l'orchidée fleurisse là où on a essayé d'extraire tout notre bien-être, c'est pas forcément bon signe pour nous. On n'a pas deux orchidées et on va pas bouffer les mêmes choses qu'ils bouffent elles. Et c'est pour moi, c'est pour ça que j'aimais bien donner à l'orchidée le nom d'Orcos, du démon, qui te fait bouffer ton propre poison pour te punir de ta mensonge. Et oui, c'est joli, mais dans un extrait du film, dans une petite partie du film, je la transforme un peu dans un monstre. Elle prend toute la place à l'image et sa bouche qui s'ouvre, c'est pas rassurante.
Non, absolument, c'est pour ça que je trouvais que le choix du photogramme que tu avais fait, Wahib, pour nous donner, enfin je sais pas, pour mettre en commun entre nous comme ça, donc hors antenne, c'est absolument monstrueux. Et cette usine, justement, c'est une question que j'avais, c'est que cette usine, elle est à l'image énormément sous tous les angles, mais il y a une distance en fait, c'est-à-dire qu'elle est peut-être pas si monstrueuse. Et tu parlais des enfants, d'où ma question, est-ce que c'est l'usine qui crée cet imaginaire du monstre, ou c'est finalement les bois qui sont malades? Et tu nous as très bien indiqué ça. Et effectivement, ces orchidées, moi je sais que c'est une fleur que je trouve horrifique, que j'aime pas du tout. Et ce qui est drôle, c'est que lui, il va vers ces orchidées, il les trouve absolument, il leur parle, et toi, et machin, et en fait, c'est étrange parce que nous, on a, ouais, je sais pas, enfin, toi, non, comment tu. Ouais.
On doit aimer ce qui nous fait mal, en fait. On n'a pas d'autre choix. C'est ça que c'est intéressant dans Andrea. Il est complètement amoureux des orchidées, mais ça ne signifie pas que ça lui donne à bouffer. C'est un contraste pour lui. C'est l'usine qui lui donne à bouffer. C'est l'usine qui maintient sa famille. Lui, il s'attache aux orchidées. Mais on n'a que ça, en fait. On peut faire que ça. On ne peut qu'aller vers d'autres choses que ce qui nous donne de la sécurité. En fait, il faut chercher ailleurs et habiter un monde qui n'est pas forcément en fait pour nous.
Mais du coup, lui, tu le vois comme quelqu'un parce qu'il n'est pas résigné. Il est pas. C'est comme une acceptation d'un monde dans sa complexité, quoi. C'est-à-dire avec ses contradictions, tout ça. Qu'est-ce qui t'attache à ces différents personnages? Qu'est-ce qui les relie, par exemple, pour toi?
Oui, c'est
leur fond commun, c'est quoi?
C'est les paysages, c'est les lieux, c'est les territoires. C'est la façon dans laquelle on arrive à habiter un territoire. C'est difficile d'habiter un territoire où il n'y a pas de travail. Et l'aimer. Et y vivre tous les jours. Sans un plan, sans un projet, sans. Tout ce que tu fais de nous, des humains.
C'est ça que je trouve qui est le plus fort dans ton film. C'est comment tu donnes à voir ces personnages, quoi. Comment ils sont filmés, c'est très beau, comment ils sont donnés à voir. Alors que tu sens que. Ouais, il y a quelque chose de surprenant dans leur manière d'habiter, qu'il y a toute cette complexité, toute cette stratification, que c'est quand même dur. Tu sens cette dureté à habiter ce paysage, habiter cette vie au quotidien. Tu arrives à t'imaginer ou à te raconter des choses, et il y a quelque chose de. Et c'est beau comment ils l'habitent, quoi. Et ça, c'est à la fois c'est déchirant, et puis à la fois ça donne beaucoup d'énergie, quoi.
Oui, parce que est-ce que tu vois, c'est vrai, je rejoins l'eau là en fait, c'est tu leur, en fait, tu leur rends la dignité qu'ils ont certainement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pleins. Enfin, on a vraiment, on est passionné par ce qu'ils disent, leur façon d'habiter avec une forme d'assurance. On imagine bien qu'ils sont relativement désœuvrés et hyper heurtés par tout ce qui les traverse, mais ils sont riches d'histoires au pluriel en fait. C'est-à-dire que on pourrait passer des heures avec eux. Complètement. Et tu vois, tout d'un coup, j'écoutais l'eau et je me disais, mais je repensais tout d'un coup désœuvrement. Je pensais tout d'un coup à la clôture de
Téguilla.
Ouais, Tarek Téguilla. Merci beaucoup. Où en fait, t'as des mecs en face de toi, court métrage, bim, face caméra, et qui, en fait, y a pas d'autre issue que la mort d'une certaine manière. En fait, y a plus rien à espérer. Y a plus d'espoir. Et là, en fait, ce qui est beau, c'est qu'ils composent avec ça, avec ce territoire.
Ouais, pour moi, c'était hyper nourrissant, très nourrissant. Ce lieu, c'est très nourrissant. Et rencontrer les gens, c'était très important pour comprendre. Comprendre que c'est pas forcément la projectualité qui nous donne je pense c'est pas l'envie de vivre, c'est vraiment c'est différent, c'est
un sens, un but dans la vie.
Ouais. Non, il y a pas, c'est pas vraiment pas ça. C'est
la hasard.
C'est la possibilité d'être dans le monde à d'autres formes que comme des colonialistes, comme quelqu'un qui doit prendre forcément quelque chose du paysage, de l'endroit où tu habites, mais que tu composes avec, tu vives avec, tu fais partie de ça.
Mais on en revient à la question de l'arbre un peu.
Exact. Oui. Aussi. Oui. De l'arbre, de l'autre, de ce, oui. Tout ce qui n'est pas humain.
Mais de l'arbre et de ces... Oui, voilà, oui.
Mais parce que quand on parle d'humain et non humain, on a toujours quand même dans les discours écologistes, toujours cette prise de position où c'est, quand même c'est l'humain en premier plan. Et les non-humains, on lui donne la parole, on lui donne de l'intérêt, on lui donne de l'importance. Mais en fait, je trouve que ces gens-là, et le lieu où ils habitent, c'est notre futur en fait. C'est des endroits où il faut forcément vivre avec d'autres choses que notre propre intérêt.
Mais c'est vrai qu'en plus, en fait, ce qui est étonnant dans ce film, c'est que. Comme tu dis, tu fais des films documentaires. Il y a une approche documentaire qui est très évidente, en fait. La façon dont tu suis les personnages, comment tu les accompagnes, etc. La voix off. Enfin, je veux dire, ces choses-là, on sent bien que c'est clairement pas, ça flirte pas avec ce qu'on appelle la fiction. Même si on n'aime pas trop cataloguer. En tout cas, on peut vraiment parler d'une approche documentaire. Et... pardon, je me suis perdue.
La fiction a toujours précédé le réel, de toute manière.
Oui, voilà. Et
presque
ben justement,
on a l'impression de partir d'une sorte de
dystopie.
D'apocalypse.
Complètement. C'est-à-dire que les images, en fait, il y a quelque chose de la dystopie.
Ah, ouais, quelque chose d'essentiel.
Et eux sont ultra vivants. Et toi, avec eux, t'es vivante. Mmh. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, si on n'avait pas ces personnages, on serait un peu comme avec ce cri. Dont on ne sait pas quoi faire en fait, c'est-à-dire un cri de désespoir très certainement, parce que en fait les images sont quand même assez glaçantes quand on y pense.
Oui, oui, c'est un lieu dystopique tout à fait, sauf que c'est pas une dystopie, c'est le présent. Et oui. Dans le présent, il y a tout ce que tu peux composer avec.
J'ai retenu quand même le dernier message dans la lettre de réponse de Martha, notre invitation à cette émission. L'arbre, elle nous a écrit, l'arbre, il est toujours là.
Ah non, non, j'écris, je regarde vers la mer, attends.
Voilà, avec ma coque.
Faites pas dire n'importe quoi.
Avec ma coque. Comment tu l'as écrit?
Ah non, mais ça c'est pour dire que tout ce que je vous avais dit, l'arbre, etc., et voilà, l'arbre est là.
Je m'accroche dessus.
Non, non, c'est ma coque qui a accroché
cependant,
dessus.
Cependant...
Ouais, c'est sa coque, c'est son ex.
C'est voilà. Pas moi.
Exuvie.
J'ai tourné mon regard vers la mer.
Voilà. Non, mais la coque, elle est vide, hein.
Oui.
Tu sais, la cigale, elle s'est envolée.
Donc, il y a
l'arbre là, la coque est là, moi je suis là, moi je suis ailleurs.
Et oui. Elle a laissé là-bas.
Arrête de penser à l'arbre.
Non, mais pour les auditeurs, peut-être qui ne sont pas situés par rapport, on a passé aucun extrait, même un petit extrait sonore, peut-être ça aurait mis un petit peu nos auditeurs, un petit peu, on accroche avec tes images, qui sont terriblement fautes, je dirais des tableaux de maître. Tu parles de l'architecture de Verdi, tu as beaucoup d'influence, autant graphique, visuel et sonore surtout, parce que c'est presque un mariage entre le son. Dans ton film, on doit le vivre comme ça, on doit le vivre comme une émotion à plusieurs sens réunis comme ça, qui se entrechoquent des fois, et qui danse parfois, c'est vraiment ça. Moi, je trouve quand même, pour un peintre qui essaye d'effacer le paysage, même si c'est difficile d'effacer le paysage, il devient décor. C'est-à-dire toute cette industrie, toute cette terre de bauxite qui est ravagée par cette pollution, ces navires qui menacent, ces tronçons de mer, ces traînées de pétrole. De l'autre côté du village, là où il n'y avait que figues et vignes, des vestiges d'un ancien empire, des mondes durs et difficiles, des hommes qui faisaient rêver les plus jeunes avec leurs bateaux en bois. Se prêter à la pêche, au thon, on leur avait acheté leurs terres et on leur promet des emplois. La puissance de l'acier est indestructible, inattaquable. Et dans ce champ, on retrouve donc ces personnages. Finalement, c'est ce contact avec tes personnages qui est le plus fort à cet endroit. Et tout ce décor, il reste en arrière-plan. Tu es un peintre. Et la musique aussi, elle fait son effet dans ta construction du récit narratif qui vient, qui se pose. Et Andrea qui nous dit, je cherche avec l'aide d'autres chercheurs en botanique, qui constitue une société européenne native
Orphelis.
Andrea, il a cartographié en 2019
tu l'as trouvé où ?
Les sites, j'ai fait intervenir Google pour essayer de traduire un petit peu.
Ça,
je ne trouvais pas,
c'est pas dans le film.
Les sous-titrages, en effet. Mais c'est dit dans le film, hein. Il le dit, il te le dit.
Oui.
Il te le dit au moment où vous êtes en train de prendre le petit café au déjeuner. Il te le dit, il te montre le livre où il est cité. Enfin,
ça c'est un extrait.
Fierté,
là, t'as regardé un vieux truc. Hein.
Oui.
C'est pas le film.
Voilà, mais c'est drôle. Où on construit justement sur ces vieilles casseroles, comme on dit. Alors, il s'est allié donc à cette société de chercheurs européens qui cartographie ces sites contaminés par la pollution d'hiver. Après l'abandon de ces sites, on parle de la bauxite, donc une industrie d'aluminium, et on sait ce que ça fait. À côté de nous, à Marseille, il y a le site de bauxite à Gardanne, vous voyez.
Ah, mais vous savez, les Baux Rouges à Porto Scuso, la dernière fois que je suis allée, les films étaient déjà presque finis.
Oui.
André m'a raconté qu'un de ses collègues, il va là pour faire des essais pour voir à quel point la pollution, parce que la mafia il a caché dedans des déchets toxiques. Et la dernière fois qu'il est allé, il a dit c'était un jardin, il y avait des oiseaux qui avaient fait les nids, il y a des plantes qui poussent dans la bauxite là où
Oui, mais c'est ça en fait l'acte de résister, c'est-à-dire que malgré que ces orchidées orphelines, comment ils les appellent maintenant, ils leur ont donné ce titre, spontanées. En fait, là-dedans, le laboratoire pharmaceutique, il va créer une plus-value, c'est-à-dire dès l'instant qu'il y a cet être végétal qui se nourrit de ce poison et qui puisse le synthétiser et muter avec nous aussi. Ça veut dire, nous les humains, ça peut nous servir. L'expérience du végétal, bien sûr. Donc tout ça, voilà. Bon, heureusement qu'il y a Andrea.
Non, mais lui, il ne dit pas. Mais en fait, c'est pas vrai. Il est pas dans. Il va toute seule et il dit à personne où sont les orchidées.
Ben voilà, il a repéré ce site privé où il n'y a qu'une marée noire, mais au milieu de cette marée, il y a une marée d'orchidées. Et j'en ai recueilli plus de 400 à côté de ces usines. Ce sont des.
Non, il ne les recueille pas. Hein.
Oui, oui.
Non, il les touche. À peine il les caresse. Hein?
Car amoureux, ces hybrides sont rares et n'existent plus. Dans les livres édités là-dessus, ce phénomène d'hybridation est nommé, dont le dernier livre paru, comme un miracle. On me cite comme Xandrea.
Oui, on donnait un nom à son nom à un orchidée qui l'a découvert. Et puis après cet extrait que tu as vu, il a découvert une autre orchidée qu'il a appelée comme sa fille. Et il y a un autre.
Comme quoi, finalement, on a quand même besoin de posséder un peu. Hein.
Oui, c'est ça.
Non, mais
c'est terrible. On n'arrive pas.
Non, en fait, là, c'est vrai que c'est. Mais tu vois, c'est tout le pari de. En fait, une émission radio. Pour parler de cinéma, c'est pas évident. Et du coup, nous, on voit des choses que d'autres n'ont pas vues. Oui, on est bien d'accord, mais tout à l'heure, en fait, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est vrai que c'est pas évident. Et que du coup, de donner à voir. Alors, du coup, on s'appuie parce qu'on a envie, en fait, parce que c'est vrai aussi que tu as un rapport au. Tu lis pas mal. En fait, l'importance. Non, mais sérieusement, dans Orcos, l'importance du texte, enfin, de la voix, de la parole. C'est quand même impressionnant. Elle irrigue tout le long du film. Et du coup, en fait, c'est vrai que là, nous, je le dis pour les quelques personnes qui écoutent, c'est on a un peu envie, en fait, je pense que les uns comme les autres, on a plongé aussi dans les images et dans les sons et dans la parole. Et du coup, en fait, c'est vrai que c'est d'une. Comment dire ? On est tenté, on a envie de lire. Alors là, je vais m'en empêcher. Mais moi, j'ai un passage magnifique sur Capalta, non
ouais,
tu vois ce truc
ouais, parce que Fabrice, synthétise. C'est vraiment l'enfant, la voix off. Mm. En fait, il y a plusieurs voix dans ce film. Mais je pense que c'est vrai, ça a marché. La voix off n'est pas imposante. C'est pas celle à laquelle tu crois le plus. C'est pas celle qui t'explique ce que tu vois. C'est le personnage. C'est un personnage un peu rêveur, quelqu'un qui a vécu là-bas quand il était petit. Et que du coup, sa façon de raconter est toujours enfantine. À un moment, ça te saoule aussi, cette voix. Hein? À un moment du film, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils disent, en fait? On voit d'autres choses. Et c'est ça que je voulais faire. Je voulais que la voix des autres soit au même niveau, à la même place que la sienne. Sauf que la sienne, c'est la voix, en fait, c'est mon alter ego, si tu veux. C'est la voix de ceux qui n'habitent pas là, qui ne vivent pas au quotidien, et qui du coup se font plein de rêveries. Dans la tête.
Ouais, elle a un peu le registre d'une voix contée, quoi. Comme un conte, quoi. Même si c'est des choses concrètes qu'il raconte, la façon dont il le raconte, le rythme, la narration et tout ça, c'est. Des fois, tu l'entends pas en entier, mais tu t'entends pas ce qu'elle raconte, mais t'entends quelque chose. Elle a aussi, pour moi, elle a aussi du registre de la musique.
Mais je pense pas, je sais pas si je me trompe, mais je pense pas que c'est la voix qui dirige le film.
Non. C'est les personnages qui dirigent le film, qui t'emmènent, qui te font traverser les territoires. C'est les personnages, quoi, qui l'habitent, quoi.
Pour moi, c'était important parce que la voix off est souvent très imposante dans les films. Hein.
C'est ça.
Là, souvent très explicative, souvent celle qui dirige le spectateur à comprendre les choses.
Oui, dans les choses les plus télévisuelles. Oui.
Au contraire, elle est soi-même. La voix de ce personnage est la voix de quelqu'un qui arrive dans ce lieu et qui fantasme. Il y a beaucoup de fantaisie.
Mmh. Oui, c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment à l'image. C'est pour ça qu'on a. Enfin, là, j'ai sous les yeux un extrait. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment à l'image du film. C'est-à-dire qu'en plus, moi, je trouve que ça aide le spectateur, en tout cas la spectatrice que j'étais, que je suis, à trouver une place, parce que comme tu dis, en fait, il n'y est pas au quotidien, et du coup, en fait, on n'a pas la voix d'un expert ou la voix de quelqu'un qui somme quelque chose, qui impose.
Oui, on n'a non plus la voix du poète qui t'explique tout ça. C'est-à-dire, oui, c'est la voix d'un poète, mais tu as la place aussi pour écouter les autres. Moi, je pense que ça, je suis très contente d'avoir fait ça. J'essayais. Je voulais essayer d'être à l'écoute aussi et de composer un langage pluriel plutôt qu'une seule voix qui
c'est
une seule oreille.
Une polyphonie, quoi.
Je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'aimais bien cette idée qu'à bout d'un moment, on a plus envie d'écouter les autres que les voix off. Et oui, une des fantaisies qu'il a, c'est vrai, c'est celle-là de la piraterie, de la mer, de ce lieu.
Oui, il y a ça aussi. Non, mais ça, c'est tout à l'heure moi. Mais parce qu'en fait, je vous regarde, je vous écoute et en même temps, je parcours Et du coup, je me suis dit, ah tiens, mais oui, c'est drôle, parce que tu parlais des enfants qui traversent ces lieux dévastés, et que voilà, enfin, et que finalement, grandissant, on a envie de s'approprier ces lieux, de les traverser à nouveau, de les filmer, je sais pas quoi, de les peindre. Et tout d'un coup, j'étais, hop, pile poil, je tombais sur justement quelque chose que j'avais souligné, où en fait, effectivement, il parle de déjà de la liberté, enfin, de tout laisser derrière soi, tout ça là, tu sais. Mmh. Et il va vers effectivement ses apparitions. Il arpente, il se souvient de lui enfant arpentant ces lieux, et tout d'un coup se figurait des pirates. Et il s'avère que adulte, il réalise qu'en fait il y a vraiment eu des pirates. C'est un fait historique. Mmh. Et voilà, en fait, c'était juste, j'ai fait un très grand bond par rapport à ce qui t'amène, toi, à te tourner vers la mer, actuellement.
Ouais.
Voilà.
Ouais, si, parce que c'est. Qu'est-ce que c'est qui a fait que ce lieu, ça m'intéresse. C'est pas seulement l'histoire de l'usine, c'est l'histoire des gens qui y habitent. Et comment c'est cette résistance aux dégâts du capitalisme, qu'est-ce que c'est que, qui fait que, qu'il y a quelque chose de solide dans ce village? Et je pense qu'il y a une histoire à voir avec une culture de la mer. Une culture plus. Beaucoup très différente de la culture continentale. Je ne peux pas trop te dire encore, mais c'est vrai que Fabrizio l'a traduit par les pirates, la fascination des pirates, les pirates et les pêcheurs, les gens qui se débrouillent. Mais il y a vraiment un tissu social qui est complètement différent de celle de l'usine. L'usine, c'est quelque chose qui, c'est sûr, qui unit, qui solidarise les hommes, surtout. Et, mais ceci est d'autres aussi, endroits où l'usine est un peu arrivée très vite, et très vite elle est répartie. Ce sont des endroits où la culture du village même n'a pas pu être balayée complètement, et du coup la disparition de la culture de l'usine n'a pas laissé le vide derrière. Dans ces villages, la culture de la mer est très très forte. Tout le monde a à voir avec la mer d'une façon ou de l'autre. Et quand tu as à voir avec la mer, ben, c'est comme les. c'est ridicule que je le dise comme ça, mais c'est un peu comme ces racines cinéraines de l'arbre que tu as beaucoup aimé à Webb. La mer m'a porté, et il les porte dans d'autres rivages. Ils sont tous liés à quelques autres endroits qui n'ont rien à voir apparemment culturellement, dans la langue, dans la façon de vivre avec la Sardaigne, mais où ils se sentent tout à fait à l'aise. Ils parlent deux, trois langues. Ils voyagent dans des gros bateaux pour faire les marins. Ils ont même des familles dans d'autres... de double, triple famille ailleurs.
C'est même pas le marin dans... Oui, d'accord.
Et du coup, oui, et ça c'est quelque chose que dans les films n'est pas. Et c'est quelque chose que c'est un peu secret. Il faut y entrer. Et là, c'est cela que je travaille maintenant.
Et tu peux nous en dire plus sur c'est cela que tu travailles maintenant?
Je peux vous dire par exemple que... À Porto Scuso, juste pour ne pas partir trop loin, à Porto Scuso, ils font une pêche traditionnelle qui s'appelle la pêche au thon, qui a dû être arrêtée pendant l'industrialisation parce que les usines faisaient trop de bruit et le thon s'était déplacé. Apparemment, la pêche au thon a été réouverte juste pour des bouts touristiques, sauf qu'ils n'ont pas pris en compte le fait que beaucoup de gens du village sont partis faire la pêche au thon ailleurs et ils ont gardé quand même le savoir-faire. Et quand ils sont rentrés au village, c'est devenu quand même un gros, gros affaire sociale très, très fort, qui lie beaucoup. Et les chefs de la pêche au thon s'appellent les Reis. Les chefs, c'est lui qui commande sur toute l'équipe. Et Reis, ben, c'est aussi le chef des bateaux pirates. Et je ne peux pas vous dire trop de comment ils gagnent leur vie, ces gens-là, parce que c'est pas toujours légal. Mais moi, je les trouve super intéressants, cette façon de se débrouiller, de vivre. C'est pas de la débrouille, hein, c'est vraiment la culture de la Méditerranée qui survive même s'il a été complètement colonisé par la culture continentale.
Donc ça veut dire que ton prochain film, tu voudrais le faire partir aussi de ce même territoire ?
Je sais pas.
Tu sais pas encore en concernant le territoire ?
Je sais pas, mais c'est sûr que c'est parti de là dans ma tête, du coup pourquoi pas. Mais je suis un peu loin de dire s'il va partir de là ou pas. Je vais pas un peu la loin. Je suis un peu lente en fait.
Ben non, mais là t'es encore accrochée aussi à, enfin accrochée, attachée à Orcos aussi qui...
Non mais j'ai déjà commencé à écrire hein, les noms.
Je sais. Mais on...
Ah, mais je ne sais pas si je veux parler. À la
non, n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Il n'y a aucun problème. Mais après, non, mais c'est étonnant comme en fait ce qu'on s'imagine de la vie insulaire qui pourrait être enfermante est quelque chose qui s'ouvre grâce aux mers. Et comment en fait quand tu dis l'usine.
Non, mais ça c'est une autre chose qui me fait de la rage. Ah. Voilà. Non, mais quelle heure ?
Vas-y, un petit cri de rage là. Hurle un coup.
Non, c'est hallucinant. On est complètement enfermé en étant une île, alors que la mer, c'est un truc de... C'est-à-dire, c'est... normalement, ça... c'est pas une frontière, la mer. Ça se traverse. Ok, basta.
C'est pas un mur.
Tu vois ? Et là, c'est un mur, mais c'est un mur grand. Là, la Méditerranée, c'est un cimetière. C'est un cimetière. Ok ? Je me souhaite pas. Mais du coup, ils ont cassé les couilles, ces vikings, là. Qu'ils rentrent chez eux, ils nous laissent vivre.
C'est là, on a un aperçu.
Comme ça, vite fait.
Il y aura aussi des vikings dans ton film ? Que tu vas buter ?
Oui, pourquoi pas.
Kung Fu.
Avec des arpions.
Non, elle va le faire avant, et puis après, dans le film, ça va être complètement...
Non, mais on va bouter personne, gentil. Du coup, peut-être si les végétales me tourmentent, il y aura des algues.
Oui, c'est ça. Tu trouveras toujours bien un truc qui pousse.
Ah ouais.
Sur du pétrole. Sur une plaque de pétrole.
Sur des migrants.
Ouais.
Bon, en attendant, on espère le voir, ce film Orcos.
Ah oui.
Ah, à Marseille, elle va bien être projetée à Marseille.
Oui.
Hein?
Quand, beau.
Ben quand, ça, c'est encore dur de le savoir, je crois, non?
Ouais. Il vient d'être fini.
Ouais, il vient juste d'être fini. Il tente cette contrainte laborieuse que sont les festivals.
Oh.
Voilà, ce jeu de hasard, qui n'est pas un hasard. Ouais. Voilà, quoi. Bon, on arrive vers la fin. Qu'est-ce qui... Il y aura encore
musique.
Tant de choses à dire. Mais oui, on va terminer par une petite
musique.
Qui
c'est Anna Singh
Anna Singh. Anna Singh, c'est une chercheuse qui a travaillé sur l'échelle, sur le concept d'échelle. Bon, elle a créé un livre qui s'appelle Le champignon de la fin du monde. Il était beaucoup à la mode à un moment. Parce que je parlais d'un champignon qui était notamment le premier vivant qui est poussé après Hiroshima. Et qui, bon, du coup, elle a fait toute une recherche sur ce champignon qui pousse dans des endroits dévastés. Mais en fait, elle fait une analyse du capitalisme à partir du concept d'échelle. En fait, le problème du capitalisme, c'est pas la pratique, mais c'est l'échelle de la pratique. Voilà, et du coup, moi, j'avais... Oh, tu veux que je lis ça ?
Citation, ouais.
Tu veux pas ?
Ça pourrait être...
Moi, je la lis, mais moi, je ne lis pas bien. C'est une histoire qu'il nous faut apprendre. La transformation industrielle s'est révélée être une bulle remplie de promesses suivie par la destruction des modes de vie et des paysages dévastés, un délabrement général. Mais on a la possibilité... C'est abandonner tout espoir ou alors la possibilité de se tourner vers d'autres lieux pleins de promesses. Promettre, c'est ruiner. C'est ce cycle-là, ça m'intéressait ce concept d'Anna Singh, de promettre et ruiner, pas c'est ruiner, ça c'est terrible. Promettre et ruiner, c'est une conjonction, c'est pas une...
C'est pas une opposition, quoi.
Non, oui. c'est pas que promettre c'est ruiner, mais c'est un cycle, c'est promettre, ruiner, promettre, ruiner. La promesse est la ruine.
on vit aujourd'hui.
Et dans les films, en fait, il y a une scène que j'appelle la catastrophe, où il y a un paysage qui a été dévasté par une explosion volcanique. Je la mets un peu en parallèle avec un délabrement industriel. Et voilà.
Merci Martha.
Merci Martha. Voilà, c'était Enquête de cinéma 88.4 sur Radio Galère avec Martha, Darjeeling, Waïb, Cyril. Cyril. On se retrouve dans 2 mois ou le premier lundi de chaque mois. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de derive.tv. Et puis ben, on vous souhaite tout et rien. Et on vous dit à bientôt.
E sulla tolda squallida urla l'ascolto ignora. I nostri dì s'involano fra fetide carene. Siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo. Ma sulle nostre luci stese un funereo velo. Torme di schiavi adusti, chini a gemer sul remo. Spezian queste carene, o chini a remar morremo. Cose gementi schiavi, questo remar remare. Meglio morir tra i flutti sul biancheggiar del mare. Remiam finché la nave si schianti sui frangenti, alte le rosso nere fra il sibilar dei venti. E sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorda un dì sui martiri il sol dell'anarchia. Su schiave allarmi, allarmi, l'onda gorgoglie sale, tuoni, baleni e fulmini sul galeone.